10 minutes.
Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, Benjamin Netanyahou est arrivé à Washington. Le Premier ministre israélien rencontre Donald Trump demain. Et au-delà de l'amitié affichée par les deux dirigeants, chacun poursuit, on le verra, des objectifs différents concernant la situation au Proche-Orient. Dans ce journal aussi, Donald Trump qui continue sa politique de menace d'imposition de droits de douane. Il menace désormais les Européens. Récit à suivre. À la une aussi, la République démocratique du Congo. Kigali répond aux accusations à son encontre ces derniers jours, des accusations portées notamment par la SADC. Et puis c'est aujourd'hui que commence le procès très attendu de Luis Rubiales, l'ancien président de la Fédération Espagnole de Football, contraint à la démission après avoir embrassé sur la bouche de force Jenny Hermoso, l'une des joueuses de la sélection espagnole. Benjamin Netanyahou est donc arrivé à Washington où il doit rencontrer Donald Trump demain. Ce sera le premier chef de gouvernement étranger reçu par Donald Trump depuis son investiture. Avant cela, le Premier ministre israélien doit s'entretenir aujourd'hui avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial de l'administration américaine pour le Moyen-Orient. Un déplacement qui intervient alors que les négociations pour la phase 2 de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas sont censées démarrer aujourd'hui. Une phase 2 qui comprend la libération des derniers otages et des prisonniers palestiniens, mais aussi la fin de la guerre. Écoutez à ce sujet Gershon Baskin, chercheur et ancien négociateur sur le Proche-Orient.
Le fait que Netanyahou annonce qu'il n'envoie pas d'équipe de négociateurs, mais qu'il va négocier directement avec le président Trump mardi, signifie une chose, il faut s'attendre à beaucoup de difficultés. L'accord doit inclure le retrait complet d'Israël de Gaza et la fin totale de la guerre. Mais Netanyahou a été très clair, Israël n'acceptera pas de se retirer de Gaza ni de mettre fin à la guerre tant que le Hamas restera au pouvoir à Gaza. Et en Israël, il n'y a aucune espèce de discussion ou de réflexion sur qui va remplacer le Hamas pour gouverner Gaza après la guerre. Donc, il peut y avoir un conflit potentiel entre Netanyahou et Trump si Trump s'en tient à ce qu'il a dit, c'est-à-dire il faut mettre fin à cette guerre et Israël doit se retirer de Gaza. Le problème, c'est que Trump a aussi dit qu'il ne voulait pas du Hamas pour gouverner Gaza. Donc c'est contradictoire. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre pour la suite.
Et Gershon Baskin au micro de Muriel Paradon et de Nicolas Benita à Jérusalem. Plusieurs sites énergétiques ont pris feu en Russie après une attaque de dizaines de drones ukrainiens cette nuit. 70 drones ont été interceptés et détruits au-dessus de 6 régions russes. C'est ce qu'indique le ministère russe de la Défense dans un communiqué qui a fait intensifier ses attaques aériennes contre les installations énergétiques et militaires de la Russie ces derniers mois. Une campagne décrite comme une juste réponse aux bombardements incessants de la Russie. En parallèle, une explosion dont les causes ne sont pas encore connues a fait un mort et 4 blessés au nord-ouest de Moscou dans un complexe résidentiel. Le Premier ministre britannique Keir Starmer se rend aujourd'hui en Belgique pour des discussions sur la défense avec l'Union européenne lors desquelles il va appeler l'Europe à redoubler d'efforts en Ukraine contre la Russie. C'est ce que fait savoir Downing Street. Keir Starmer qui va rencontrer cet après-midi le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, avant de se rendre à une réunion informelle du Conseil européen avec les dirigeants des pays membres. Une réunion des 27 où va probablement être très commentée la petite phrase hier soir de Donald Trump. Le président américain a promis de futurs droits de douane sur les produits européens très bientôt, a-t-il dit. Précision, Karine Auton.
Sur le tarmac de l'aéroport, en rentrant de son week-end à Mar-a-Lago hier soir, Donald Trump a menacé les produits européens d'être ses prochaines cibles très bientôt.
Ils profitent réellement de nous, vous savez. On a un déficit de 300 milliards de dollars. Ils ne prennent ni nos voitures, ni nos produits agricoles, quasiment rien. Et nous prenons tout. Des millions de voitures, énormément de produits agricoles. L'Union européenne dépasse les bornes. C'est une atrocité.
Le président américain assume ses guerres commerciales à 100%, même si cela signifie une répercussion et donc une augmentation des prix pour les consommateurs américains. On l'a vu ce week-end commencer à préparer ses supporters sur son réseau social à ce que l'inflation ne baisse pas aussi vite que prévu. C'était pourtant l'une de ses principales promesses de campagne. Karine Auton, New York, RFI.
Et puis on parlait tout à l'heure de la Belgique. Le chef des conservateurs flamands, Bart De Wever, est devenu ce matin officiellement le nouveau Premier ministre belge en prêtant serment devant le roi Philippe au Palais Royal. Le dirigeant de 54 ans, dont 12 ans comme maire d'Anvers, est le premier indépendantiste flamand à prendre la tête du gouvernement fédéral en Belgique. En République démocratique du Congo, la mission des Nations Unies évacue de Kinshasa les familles du personnel de la MONUSCO. Décision annoncée hier après-midi avec effet immédiat et pour une durée de 3 mois. Une décision qui intervient alors que le ministre congolais de la communication et des médias a lui déclaré hier soir sur TV5 Monde que, je cite, une grande partie de la ville de Goma était tombée entre les mains de l'armée rwandaise et non du M23, puisque le M23 n'existe pas. Voilà pour la citation de Patrick Muyaya. Les combats dans l'est de la RDC qui avaient fait l'objet d'accusations portées notamment par la SADC, qui s'était inquiétée dans un communiqué des attaques récentes menées par le groupe armé du M23 et l'armée rwandaise à l'est de la RDC, mais aussi par le pays voisin, le Burundi. Explication, Lucie Mouillot.
Les forces de défense rwandaises défendent les frontières, elles n'attaquent pas les civils, affirme dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères, dénonçant les actions de la mission de la SADC en RDC. Kigali se dit cependant favorable à un sommet conjoint entre les pays d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Alain Mukuralinda, porte-parole du gouvernement.
Le Rwanda soutiendra toujours une position qui va dans le sens de la recherche de la paix par les pourparlers, par les négociations. À part peut-être le gouvernement congolais, tout le monde est convaincu que ce problème ne sera pas résolu par la voie militaire.
Dans un discours à Bujumbura, le président burundais Evariste Ndayishimiye alerte de son côté sur le risque de régionalisation du conflit, accusant le Rwanda, je cite, de préparer quelque chose contre son pays, des déclarations rejetées par Kigali.
Il oublie de dire qu'il participe déjà à la guerre aux côtés de FARDC et de Wazalendo et d'FDLR. Le Burundi est déjà en guerre. C'est toujours des accusations qui viennent sans preuve, sans fondement. Le Rwanda devra se défendre si c'est nécessaire, mais le Rwanda n'a pas attaqué qui que ce soit.
Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont eux aussi appelé le M23 et les forces rwandaises à mettre fin à leur offensive à l'est de la RDC. Si Kigali n'a jamais admis apporter un soutien aux rebelles, le gouvernement parle de mesures défensives à la frontière. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
C'est aujourd'hui que commence en Espagne le procès très attendu de Luis Rubiales, l'ancien président de la Fédération espagnole de football, contraint à la démission après avoir embrassé sur la bouche sans son consentement Jenny Hermoso, l'une des joueuses de la sélection nationale de football. Luis Rubiales risque 2 années et demie de prison. Une centaine de médias nationaux mais aussi internationaux couvrent ce procès. À Madrid, François Musso.
Les faits remontent au 20 août 2023. Ce soir-là, c'est la finale du mondial de football féminin à Sydney, un match emporté par les Espagnols. Sur le podium victorieux, le président de la fédération d'alors, Luis Rubiales, prend la tête de la joueuse Jenny Hermoso à deux mains et l'embrasse sur les lèvres. Cela provoque rapidement une réaction d'indignation entre les joueuses, puis entre les organisations féministes qui lancent sur les réseaux sociaux une campagne intitulée « C'est à Cabo, ça suffit ». Les faits reprochés par l'accusation ne s'arrêtent pas là. D'après plusieurs joueuses qui seront appelées à comparaître, Luis Rubiales aurait continué à harceler la joueuse Jenny Hermoso et dans les semaines suivantes aurait exercé sur elle et son entourage des pressions pour qu'elle ne l'accuse pas d'agression sexuelle. Or, c'est précisément le point sur lequel les magistrats devront se prononcer. Ce baiser non consenti devant les caméras de télévision et le comportement ultérieur de l'ancien président de la fédération constituent-ils en soi une agression sexuelle? Les avocats de la joueuse ont non seulement requis 2 années et demie de prison, mais aussi une amende de 50 000 euros et l'interdiction pour Luis Rubiales de s'approcher physiquement de la joueuse à moins de 500 mètres. François Musso, Madrid, RFI.
Enfin, c'était une cérémonie dédiée aux victimes des incendies de Los Angeles. La cérémonie des Grammy Awards, Beyoncé est devenue cette nuit la première artiste noire à remporter le prix du meilleur album country pour Cowboy Carter, prix du meilleur duo country également parmi les autres trophées. Kendrick Lamar qui remporte la chanson de l'année avec Not Like Us, et puis leur interprétation avait marqué la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Voilà, le groupe de métal français Gojira avec la chanteuse lyrique Marina Viotti et l'orchestre de Paris et son chœur remporte la prestation métal de l'année devant Metallica, 10h10 ici à Paris. Vous restez à l'écoute de la Radio du Monde. Tout de suite, c'est Caroline Paré pour Priorité Santé.